France Inter, franceinter.com.
Scipion voyait une ville qui avait possédé autant de navires, d'éléphants et d'argent que les plus grands empires, et dont la destinée s'achevait par un désastre. Alors, il fondit en larmes, laissant voir qu'il pleurait sur son ennemi. Appien. Mille ans d'histoire. On dit que sur les ruines de Carthage qu'il venait de détruire, le Romain Scipion s'était mis à pleurer. Méditant sur la fragilité des empires, il venait d'apprendre que la femme du général carthaginois qui défendait la cité avait préféré se jeter du haut des murs de la citadelle plutôt que d'implorer la pitié des Romains. Elle rejoignait ainsi dans la légende de Carthage une autre femme, Didon, qui 7 siècles auparavant était venue de Phénicie pour fonder sur le golfe de Tunis ce qui allait devenir la capitale d'un immense empire. Carthage, qui 600 ans après sa fondation, était devenue si puissante qu'un de ses généraux avait fait trembler le Sénat romain en réalisant dans les Alpes un des plus grands exploits de l'histoire militaire.
Je vous le répète, c'est seulement un fou ou un imbécile qui peut tenter de traverser les Alpes avec des milliers de soldats et un troupeau d'éléphants.
Ah. Écoutez! Écoutez!
Silence!
Hannibal est en train de passer les Alpes.
Nos garnisons sont partout en fuite. Rutilius connaît bien ces montagnes. Il retardera la marche du Carthaginois.
Les Carthaginois!
Voilà les Carthaginois!
Jean Mali, bonjour.
Bonjour.
C'était le passage des Alpes par Hannibal, sans doute le moment le plus connu de la très longue histoire de Carthage, l'apogée d'un empire qui pendant 700 ans a dominé la Méditerranée, dont on sait pourtant peu de choses, sinon ce qu'en ont écrit les historiens romains ou grecs, comme ceux dont vous avez publié les textes dans un livre, La véritable histoire de Carthage et d'Hannibal. Alors elle est racontée par Polybe, par Tite-Live ou par Appien, mais est-ce que l'histoire, une histoire de Carthage racontée par ses ennemis ou par ses adversaires, ça peut être une histoire objective?
Pas tout à fait. C'est vrai que... Il y a quand même un historien qui est Polybe, grec exilé à Rome, qui a tenté de donner une version la plus objective possible de cette histoire en ayant lu les textes de certains historiens carthaginois qu'il a trouvés dans une bibliothèque, dans la bibliothèque de Persée, le roi de Macédoine. Et donc, il a tenté, c'est le seul qui ait pu tenter d'être objectif par rapport à Tite-Live ou à Appien.
Parce que la bibliothèque de Carthage a été détruite en même temps que la ville en 146, si bien que tous les livres ont été dispersés ou ont disparu, d'où l'absence ou en tout cas l'insuffisance des sources, y compris, alors c'est pour raconter l'histoire justement d'une ville, qui commence par un très beau conte de fées, hein, c'est une princesse phénicienne qui a quitté sa ville de Tyr pour aller fonder Carthage.
Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, Virgile reprend cette histoire pour en faire une histoire d'amour entre Énée, le futur fondateur de Rome, et Didon.
Didon, cette femme, oui. Élissa.
Voilà, c'est ça. Ouais. Didon qui accoste sur la côte africaine et qui demande aux Africains du coin si elle peut fonder, prendre une partie de la terre africaine pour fonder une ville. Et les Africains, en rigolant, lui disent « Ben oui, vous pouvez la fonder, mais elle n'aura la surface que d'une peau de taureau. » Et le côté rusé des Carthaginois, qui sera repris souvent par les Romains, est là déjà, et elle propose de découper cette peau en lanières et de faire le tour de la ville avec toutes ces lanières.
et de créer ainsi donc une ville plus grande sur la Birsa. Birsa, ça veut dire taureau ou peau cuir, oui, c'est
cuir,
ça.
C'est ça. Hein, et donc
la citadelle de Carthage.
Voilà, le site Birsa, la citadelle de Carthage, donc. Ça peut dire ça.
Ça vient de Carthadash en phénicien, qui veut dire ville nouvelle. Alors c'est une toute petite ville au début. Elle est d'ailleurs fondée à peu près en même temps, à un siècle près, en même temps que Rome. Mais alors elle va se développer infiniment plus vite que Rome. Rome qui va rester dans un périmètre très étroit pendant très longtemps, alors que Carthage devient très vite un grand empire maritime, Jean Mali.
Oui, Carthage, tout le commerce de Carthage évolue en Méditerranée. Il crée une marine pour pouvoir défendre leurs navires commerciaux des pirates. Et ils ne vivent que par le commerce. Ils n'utilisent pas toutes les ressources qu'il peut y avoir en Afrique, derrière eux. Donc ils réservent vraiment toute leur activité au commerce. Et Rome, effectivement, n'a pas été tout de suite un pays, une civilisation tournée vers le commerce. Et donc, Carthage a pris une ampleur et s'est opposée d'abord aux Grecs.
Mais une ampleur importante quand même, puisque on voit des comptoirs carthaginois un peu dans toute la Méditerranée. On en voit en Corse, Aléria est une ville d'origine carthaginoise, la Sardaigne, la Sicile. Ils vont même au-delà d'ailleurs du détroit de Gibraltar, puisque Mogador a été fondé par les Carthaginois aussi, je crois.
Tout à fait. Et il y a un grand marin qui s'appelle Hannon, qui est même descendu, qui a descendu la côte du Sénégal et qui a découvert un peuple poilu, un peuple bizarre, et ils se sont rendus compte que c'était des singes.
Et Mogador, j'ai oublié de le dire, mais c'est Essaouira aujourd'hui au Maroc. Il y a eu de très grands voyages de navigateurs carthaginois, et alors qui vont se doter ainsi d'un empire qu'ils vont défendre ou conquérir avec une armée composée en grande partie de mercenaires et de ce qu'on pourrait appeler les premiers chars d'assaut de l'histoire.
Là-bas, ce sont les Libyens. Là, les Numides. Au fond, les Ibères, les meilleurs cavaliers du monde. Et ceux-ci, ce sont mes Carthaginois, des hommes qui endurent toutes les fatigues et toutes les souffrances. Maintenant, je vais te montrer mes armes les plus puissantes. Ce sont mes éléphants, les bêtes les plus fortes que la Terre ait jamais connues. Regarde-les bien. Voilà leur masse énorme. Rien ne peut les arrêter. N'aie pas peur. Ils ne sont méchants qu'au combat.
Quelle est leur tâche dans la bataille?
La plus simple qui soit. Abattre tout ce qui se trouve devant eux.
Alors les éléphants, Jean Mali, c'était vraiment l'arme de guerre absolue de l'époque. C'était le char d'assaut de l'époque.
Tout à fait, le char d'assaut. Et ils les utilisaient pour défoncer les lignes adverses, aider de la cavalerie numide qui pouvait contourner l'ennemi pour les prendre à revers.
Ça devait terroriser leurs ennemis. D'ailleurs, ils avaient pas mal d'adversaires. Ils avaient aussi, on l'a entendu dans cet extrait, beaucoup de mercenaires, ce qui d'ailleurs rendait la gestion de l'armée assez difficile, parce que ces mercenaires, par définition, pouvaient très bien se soulever.
Oui, ils pouvaient se soulever. Ils parlaient des langues différentes. Donc, quand il fallait donner les ordres, il fallait les transmettre à des chefs ou faire des traductions. Il y avait ça. Et bon, pourquoi des mercenaires? C'est parce que les Carthaginois n'étaient pas très belliqueux. Ils avaient créé une marine pour se défendre, mais ce n'étaient pas des conquérants comme les Romains. Et donc, il y avait très peu de citoyens qui étaient engagés dans l'armée.
Alors, ils avaient aussi beaucoup de particularités qui ont impressionné leurs contemporains. D'abord, une religion considérée comme très cruelle. Il y avait le culte de Baal qui exigeait des sacrifices d'enfants.
Oui. Alors, ça vient de Diodore qui a créé cette rumeur qui a été reprise par Flaubert dans Salammbô de ce dieu où l'on sacrifiait effectivement des enfants en les jetant dans le feu. Il y a eu des fouilles qui ont été faites, de toffettes, c'est-à-dire d'endroits où on a retrouvé quand même des squelettes d'enfants, des morceaux d'os mélangés à des petits animaux comme des singes ou des chiens. Et on s'est posé la question si ces endroits-là n'avaient pas été créés pour garder ces morceaux d'enfants sacrifiés.
Donc c'est pas des rumeurs, hein, vous avez employé le mot rumeur.
Non, enfin... La vérité n'est pas tout à fait établie, c'est ça.
Alors, autre particularité, ce sont des institutions qui ressemblaient assez, d'ailleurs, aux institutions romaines.
Oui, il y avait un Sénat, il y avait une Assemblée du peuple, et il y avait des chefs, des consuls, qu'on appelait suffètes. Et il y en avait souvent deux, comme à Rome. L'un pour garder et s'occuper de l'administration pendant que l'autre partait en guerre.
Le pouvoir était détenu aussi par, c'était un pouvoir oligarchique détenu par quelques grandes familles.
Absolument, il y avait d'un côté les Barcides et les Magonides. Les Barcides, famille d'Amilcar, d'Asdrubal et d'Annibal, et puis les Magonides avec Magon.
Les premiers étant favorables à la guerre, à une guerre de conquête en substance, hein, et puis les seconds plutôt
réservés.
Plus hostiles. D'ailleurs, il y aura des conflits à propos des guerres que vont mener justement les Carthaginois contre tous ceux qui, évidemment, font obstacle à leur expansion commerciale. Ils vont se battre contre les Grecs, par exemple.
Absolument, oui.
Et puis alors,
avant les Romains. Oui.
Et puis alors, les Romains, avec lesquels commence ce qu'on appelait les guerres puniques. Pourquoi puniques?
Parce que punique, ça veut dire carthaginois.
Pour les Romains, c'est
voilà,
ça.
Voilà, pour les Romains, absolument. Oui.
Et puis alors, ces guerres donc, commencent en... La première, il y en a eu trois, la première commençant en 264, c'est à cause de la Sicile, je crois.
Oui, absolument. La Sicile était une terre importante, un endroit important autant pour les Carthaginois que pour les Romains. Les Romains avaient peur que les Carthaginois traversent et prennent la Sicile et après arrivent en Italie. Et puis il y avait aussi ce détroit, ce passage entre le Cap Bon et l'Ilibé qu'il fallait surveiller et gérer pour faire passer les navires de l'Espagne jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la Grèce et la Perse.
Mais qui est à l'origine de ces guerres? Est-ce que ce sont les Romains? Est-ce que ce sont les Carthaginois? On a l'impression presque qu'elles sont inévitables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Rome commence à sortir de la cité de Rome pour conquérir d'abord l'Italie et plus tard un empire, au fond, le choc était pratiquement inévitable entre ces deux empires, l'un existant déjà, l'empire commercial de Carthage, l'autre étant en devenir.
Oui, bien que avant la première guerre punique, il y a eu beaucoup de traités qui ont été signés entre Carthage et Rome. Donc ça montrait déjà qu'il y avait un semblant de conflit sous-jacent. C'est vrai qu'à chaque guerre, il y a eu un prétexte. Il y a eu un prétexte qui a été, bon, pour la Sicile, les Mamertins qui ont fait appel à Carthage parce que les Romains les attaquaient, au contraire. Donc, et puis après, la Deuxième Guerre punique et la Troisième Guerre punique, il y a aussi eu le prétexte de Massinissa qui a attaqué le Numide. Qui a attaqué Carthage. Les autres se sont défendus. Et...
Pour faire un très mauvais jeu de mots, ce n'est pas parce qu'on avait parlé sèchement à ce Numide, comme disait Goscinny dans une de ses BD d'Astérix. Alors en tout cas, ces guerres aussi... Alors la première est perdue, c'est une guerre et une bataille essentiellement maritime, et par laquelle Carthage perd la Sicile, doit payer un très lourd tribut, ce qui provoque une révolte de mercenaires, et qui fait que on commence à... Ces mercenaires, on les envoie dans une nouvelle partie de ce qu'on appelle l'Empire carthaginois, c'est-à-dire en Espagne, hein, avec par exemple la fondation de Carthagène.
Oui.
C'est ça qui va déclencher la Deuxième Guerre punique. Présence de Carthage en Espagne, puisque les Romains y étaient aussi.
Oui, mais Carthage avait une région importante en bas de l'Espagne, où ils avaient créé Carthagène, et c'est la famille des Barcides, avec Hamilcar, le père d'Annibal, qui avait créé un véritable royaume. Et dans cette région, il y avait des mines, et qui permettaient, qui avaient des richesses importantes, et qui ont permis après d'aider à la guerre, et de payer la guerre en Italie.
Alors justement, cette guerre, c'est la deuxième guerre punique, c'est la plus célèbre. Elle commence en 218, justement en partie à cause de l'Espagne, et pendant laquelle Hannibal, après avoir franchi les Alpes, allait se distinguer dans une des plus grandes batailles de l'Antiquité, la bataille de Cannes, dans le sud-est de l'Italie. C'était le 2 août 216 avant Jésus-Christ.
De cette journée dépend le destin de Carthage. Si la bataille est perdue, un grand nombre d'entre nous seront anéantis et les autres seront réduits en esclavage. Mais si nous vainquons, nous serons maîtres de la ville de Rome et de tout son empire.
Hannibal, les Romains commencent à avancer.
Que le centre se replie et cède du terrain, les Romains vont donner dans le piège. Allez tous rejoindre vos commandants. Et qu'aucun soldat romain ne quitte Cannes vivant.
Pharaon est encerclé. Conduisez-moi à Paulus Emilius.
Bien des pères ont à pleurer un fils aujourd'hui. Les dieux ont voulu châtier les Romains.
Alors vous le rappelez, ou plutôt Tite-Live, hein, le rappelle dans votre livre, Jean Malis, c'est véritablement un carnage. Hein. Je cite Tite-Live à cette bataille de Cannes, Tite-Live qui considérait qu'il y a eu 50 000 Romains qui ont été tués ce jour-là et qui disait « Là gisaient des milliers de Romains, fantassins et cavaliers, pêle-mêle, comme le hasard pendant le combat les avait réunis. Certains, se levant du milieu des cadavres sanglants, réveillés par le froid du matin qui pinçait leurs plaies, furent tués par les ennemis, certains même parmi les gisants furent retrouvés vivants, les cuisses ou les jarrets coupées, et ils mettaient à nu leur cou et leur gorge en demandant qu'on répandît ce qui leur restait de sang. On en trouva même certains la tête enfouie dans la terre creusée. » On a l'impression d'entendre le récit d'une bataille pendant la guerre de 14-18.
Mais c'était terrible. Les batailles à armes blanches... Ça devait être terrible. Surtout que là, quand Tite-Live parle des jarrets et des cuisses coupées, c'était ce que faisaient les Numides. Mmh. Hein, c'était leur technique. Ils coupaient les gens avec leurs fameux petits couteaux. C'était un véritable carnage, effectivement.
Peut-être le plus grand désastre qu'aient jamais subi les Romains de toute leur histoire, à ce moment-là.
Absolument. Il y a eu quand même... Polybe parle de 70 000 morts du côté des Romains, 10 000 prisonniers, et il y avait 86 000 qui s'opposaient aux Carthaginois, ce qui était exceptionnel à l'époque.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils étaient même plus nombreux que les Carthaginois.
Absolument.
Qui ont pourtant remporté la victoire.
Absolument.
Hein, c'est peut-être le sens tactique de Hannibal qui a permis cette
victoire. Absolument.
De Cannes.
C'est la prise en sandwich. Hein, c'est ce fameux système. Il y a chaque ligne est l'une en face de l'autre. Et donc, les cavaliers numides encerclent les Romains et les prennent par derrière et les prennent en sandwich.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que malgré cette bataille, une victoire incontestée de Hannibal sur les Romains, pendant lesquelles aussi les Romains n'ont pas seulement perdu que des soldats, des consuls sont morts. Hein. Vraiment,
absolument.
C'est toute l'aristocratie romaine qui a été décimée à ce moment-là. Eh bien, au lieu d'exploiter cette victoire, que fait Hannibal? Il va s'installer à Capoue, hein, les fameux délices de Capoue, et il va rester 13 ans, je crois, en Italie, sans jamais attaquer la ville de Rome.
Oui. Alors, je pense, deux fois il a été tenté et il s'est même approché très très près des murs, à tel point que les Romains voulaient partir. Mais je pense qu'il a eu peur. Et bon, prendre Rome, c'était quoi? Ce qu'il voulait, c'était obtenir obtenir que les peuples de l'Italie se tournent vers lui et acceptent de se battre avec lui, puisque le principe, c'était sa volonté, c'était de montrer au peuple, quand il est rentré en Italie, qu'il voulait les libérer.
Mmh. Et d'ailleurs, il y a eu des Gaulois qui se sont battus à ses côtés.
Absolument, des Celtes qui ont été massacrés plusieurs fois parce qu'ils servaient de chair à canon. Et effectivement, ce qu'il voulait et ce qu'il a essayé jusqu'à la fin, quand il a été coincé dans le Brutium, c'est-à-dire vraiment au bout de la botte italienne, c'est de conquérir tous ces peuples et de les amener à être avec lui.
À se dresser contre les Romains.
Oui. À se dresser contre les Romains. Donc, ça a été des villes prises par les Carthaginois, reprises par les Romains, d'une façon rusée ou de façon forcée en les assiégeant. Ça a été des petites batailles comme ça tout autour. Et il n'a jamais pu obtenir l'unité de l'Italie contre Rome.
Et c'était aussi les délices de Capoue, hein, les fameuses délices de Capoue.
Oui, c'est assez étonnant parce que cet épisode, on peut penser à Alexandre quand il est arrivé à Persépolis et qu'il a découvert ce faste perse et qu'il est resté des semaines à en profiter. On s'est posé la question, on s'est demandé est-ce qu'il allait tenir, est-ce qu'il allait repartir, est-ce qu'il allait conquérir. Bon, c'est assez bizarre cette scène, sachant qu'à Capoue, il est déjà rentré. Capoue, c'est un endroit qui est fermé par des chaînes de montagne. Il y a trois passages. Et donc, à un moment, il rentre dans cette plaine et les Romains disent « il est pris au piège, on va bloquer les différents passages et il ne pourra plus passer ». Et la ruse d'Hannibal, c'est d'avoir utilisé des bœufs, de leur avoir mis du feu sur la tête et de les avoir envoyés de nuit dans la montagne. Et les Romains ont cru que c'était les Carthaginois qui partaient. Et c'est comme ça qu'il s'en est sorti.
Alors il s'en est sorti, mais bon, il reste en Italie. En fait, de l'autre côté de la Méditerranée, à Carthage, on ne veut pas lui envoyer de renforts. Et il laisse le temps aux Romains de reconstituer leurs forces. Et ils vont commencer à contre-attaquer beaucoup plus tard. Mais alors, non, en attaquant les Carthaginois, non pas en Italie où se trouve Hannibal, mais à l'extérieur, en Espagne, et puis surtout en portant leurs forces jusqu'à Carthage même. C'est là que les Carthaginois vont subir la plus grande défaite, la première grande défaite au fond de leur histoire, décisive en tout cas.
Oui, avec Zama. Oui.
Zama, hein. Voilà. Avec Scipion l'Africain.
Scipion l'Africain, oui. Donc, effectivement, ils ont attaqué, les Romains ont attaqué l'Italie, avec les deux autres Scipions, c'est-à-dire le père et l'oncle de Scipion l'Africain, qui ont été tués.
Les Romains ont attaqué, vous voulez dire, en Espagne, les Carthaginois.
Les Carthaginois en Espagne, oui. Et ensuite, donc, Scipion l'Africain a eu les pleins pouvoirs pour pouvoir débarquer en Afrique et battre Hannibal, qui a été...
qui était rappelé d'Italie.
Rappelé d'urgence d'Italie. Et à Zama, Scipion l'Africain a utilisé la même tactique que Hannibal à Cannes, la technique du sandwich, et il a été battu.
Alors c'est une défaite catastrophique, hein, la fin de la Deuxième Guerre Punique, un traité de paix qui est absolument épouvantable pour les Carthaginois, puisqu'ils vont perdre l'Espagne, ils perdent tous leurs éléphants de guerre, ils n'ont pas le droit d'en avoir, ils perdent leur flotte, ils payent une énorme indemnité. Alors on peut se dire, c'est la fin de la guerre victorieuse pour les Romains, de la guerre entre les Romains et les Carthaginois. Pas du tout. Voilà que Carthage reconstitue à nouveau ses forces au point de faire peur à nouveau aux Romains 50 ans plus tard.
Et surtout Hannibal, parce que Hannibal était resté à Carthage, il a été suffète et il a pu reconstituer une Carthage qui cachait ses vaisseaux, hein, dans un port circulaire. Il n'avait droit qu'à 10 vaisseaux, les Romains se sont rendus compte qu'il y en avait plus de 200. Et donc, effectivement, 50 ans plus tard, les Romains considèrent que, sous prétexte d'une attaque du numide Massinissa, il faut refaire la guerre contre Carthage et la détruire complètement. Delendaes Carthago, ouais. Dit par Caton, je ne sais pas combien de fois au Sénat, et donc d'ailleurs Caton qui est parti voir la destruction de Carthage avec Polybe.
Alors, Caton qui est parti pour voir la destruction de Carthage détruite par le petit-fils de Scipion l'Africain, Scipion Émilien, qui arrive devant Carthage, qui assiège la ville, c'est la troisième guerre punique, qui assiège donc la ville de Carthage, justement, va prendre la ville et détruire la ville après 3 mois de siège.
Toi, va dire à Asdrubal que Scipion est prêt à recevoir le messager du Sénat de Carthage, si celui-ci accepte sans les discuter les conditions de paix de Rome. Demain, ce sera notre tour d'attaquer et de reprendre la Birsa. Et ce sera la fin de Carthage.
Qu'as-tu ? Les Romains ont attaqué à nouveau autour de Birsa. Ils démolissent tout, jusqu'au monument. Pour remplir les fossés, ils vont jusqu'à y jeter les morts, les blessés, l'épouvante règne. C'est fini. Cette fois, il n'y a plus qu'à mourir.
Et c'était la fin de Carthage. Effroyable, hein, la description, justement, par des historiens romains de la fin de Carthage. C'était un véritable massacre.
Oui, Appien raconte ces scènes où Les Romains rentrent dans Carthage, ils mettent le feu à toutes les rues, ça brûle dans tous les coins, les gens se jettent par-dessus les toits, dans les rues. Donc les sapeurs romains, pour pouvoir traverser, se faire un chemin, utilisent des pioches pour essayer de jeter les corps dans tous les sens. Et donc, il y a une description de Appien de ces corps qui sont tout droits, les pieds en l'air ou la tête en l'air, plantés dans les décombres. C'est terrible.
Hommes ou femmes, on a même parlé à cette époque-là d'un des premiers génocides de l'histoire. C'est tellement ça a été. Parce qu'il fallait vraiment éliminer la population. Il y a eu des quantités incroyables de morts. Il y a eu la femme d'Asdrubal qui s'est jetée du haut de la Birsa avec ses enfants, hein, pour ne pas subir l'affront que représentaient les Romains. Il y a même eu, dit-on, du sel qu'on aurait répandu sur la ville pour montrer qu'elle était désormais maudite et que plus personne ne voulait y revenir.
Oui, c'est ça. On a rasé, plus une pierre ne restait sur le sol. Effectivement, symboliquement, on a jeté du sel, comme si on jetait de la chaux pour que plus rien ne pousse. Quoi.
Alors, c'était quand même pas la fin de Carthage, parce que là, c'est en dehors des récits de vos historiens romains ou grecs, mais Carthage a continué, a survécu malgré tout, puisque plus tard, ça deviendra une grande colonie romaine. D'ailleurs, la plupart des ruines que l'on voit aujourd'hui ne sont pas des ruines de l'époque des Carthaginois, mais de l'époque des Romains.
Des Romains, oui, absolument, oui. Puisque César va la reconstruire. Et puis plus tard, effectivement...
Ça devient une capitale romaine de l'Afrique.
Absolument.
Alors il y a eu aussi, évidemment, toujours quand elle était romaine, un grand foyer du christianisme plus tard.
Oui. Hein,
avec Saint-Augustin,
oui. Et puis après, c'est Carthage arabe, bon, voilà.
Et puis les Vandales, avant les Vandales. Alors, dont on dit qu'ils n'ont pas été aussi Vandales que cela, parce qu'ils ont plutôt conservé la ville romaine qu'ils avaient trouvée devant eux, les Byzantins également. Et puis alors, ce sont les Arabes, en 698, qui vont détruire définitivement Carthage, tout simplement pour reconstruire la ville de Tunis à côté. Qu'est-ce qui reste, justement, aujourd'hui de cette ville de Carthage? Puisque quand on la visite, il n'y a plus grand-chose, en fait.
Ben, il y a quand même, paraît-il, des ruines qui datent de la Carthage carthaginoise, puisqu'on a retrouvé une partie du port, on a retrouvé des fosses communes où on a entassé tous ces corps qu'on a tués, enfin que les Romains ont tués à la destruction de Carthage.
Et puis il reste une belle histoire hein, que racontent vos historiens romains. C'est assez extraordinaire quand même, parce que d'abord c'est passionnant hein, les historiens romains, mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un peu suspect, même si certains d'entre eux, alors il n'est pas romain, il était grec, si Polybe a travaillé en fait sur des textes d'historiens carthaginois, parce qu'il y en avait.
Oui, bien sûr, il y en avait. Mais ces extraits, c'est comme des séquences de films, on peut les lire de cette façon-là.
La véritable histoire de Carthage et de Hannibal, c'est justement le titre de ce livre, avec des textes d'historiens romains et grecs, réunis et commentés donc par vous, Jean Mali, et publié aux éditions Les Belles Lettres. À lire également La Légende de Carthage, d'Azdine Béchaouche, chez Gallimard dans la collection Découverte, et puis Carthage et le Monde Punique, de Edith Ridi, aux éditions Les Belles Lettres, également dans la collection Guide des Civilisations. A voir enfin l'exposition La Méditerranée des Phéniciens de Tyr à Carthage à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Une belle exposition jusqu'au 20 avril 2008. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Hannibal de Ludovico Bragaglia, édité en DVD par VCI Vidéo, et Carthage en flammes de Carmine Gallone, disponible en DVD aux éditions Fabry. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Mathias Alléon et Anne-Laure Cochet. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Anne-Cécile Perrin et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, après l'Antiquité, un sujet d'actualité, l'Iran et la bombe.